ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est l'étoile de Yitzhak ben Abraham? Pourquoi est-ce qu'on dit Abraham au lieu de Yitzhak? Le Ramban dit qu'en fait, parce que Passouk veut dire ici que lui est considéré comme Abraham, Abraham est un autre fils. Abraham, il a Ishmaël aussi. Et le pasouk vient dire qu'Ishmaël n'est pas la tolda. C'est-à-dire que tolda n'est pas, c'est pas, ça ne parle pas de biologie. Donc, on n'est pas en train de regarder les choses de cette manière-là. Donc, ce dont on parle, c'est de quelque chose qui est spirituel, en fait. C'est une première chose que dit Ramban. Rashi dit autre chose, comme vous savez. Rashi dit le fiche ayou les sané ador omrim me avimeler nit abra sarah. Les plaisantins de la génération disaient que Sarah avait bien eu un fils, mais le géniteur, c'était Avimelech. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem a fait en sorte que le visage d'Isaac était absolument semblable à celui d'Abraham, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est comme si la finition au moment de la naissance d'Isaac, c'était de lui donner un visage comme celui d'Abraham. Il est vraiment la tolda d'Abraham. Et encore une autre chose qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est que il y a une règle générale qui dit que ce qui existe du côté de la Kdusha existe aussi du côté de la Touma, existe du côté de la sainteté, existe aussi du côté de l'impureté. Comme on dit, il y a une Merkava de Kdusha, il y a aussi une Merkava, un chariot de Touma. De la même manière qu'il y a des Gdolé Ador, des grands de la génération dans le domaine de la Torah, il y a aussi des grands de la génération dans le domaine de la Touma. C'est ça ce qu'on appelle les Tzané Ador. Ce n'est pas des gens de rien du tout. C'est des gens qui réfléchissaient comment est-ce qu'on peut contrebalancer ce qui est en train de se faire qu'Abraham il a un successeur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne marche pas? Le Maharal dit que quand les deux fameux opposants à Moshe Rabbeinu, que Datan et Aviram, les deux là, ils étaient du côté de la Touma, la même chose que Moshe Rabbeinu, du côté de la Kdusha. Il y avait Moshe Aaron d'un côté, Datan et Aviram de l'autre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le principe de la Bechira, le choix, doit être toujours équilibré. Maintenant, dans cette histoire-là de qu'est-ce que voulaient les Tsanéador, justement? C'est grand du côté de la Touma. Ce qu'ils voulaient, c'est affaiblir la Emouna éventuelle, donc d'Abraham. Mais alors, dans ce cas-là, on ne comprend pas ce qu'ils ont gagné. Parce que même à supposer que le géniteur, ce soit Avimelech, mais il y a un S quand même, parce que Sarah, c'est une très vieille dame. Elle n'avait même pas d'utérus, etc. Alors, le Briscorb a répondu que d'après le Ramban, sur le Passouk, il y a un Passouk qui dit seulement que quand il y a eu la fameuse guerre avec le roi de Sodome, et le roi de Sodome, il était tombé dans des puits de goudron, etc. Et il s'en est sorti. Et en fait, il dit là-bas, Aumot, chez l'Oayouma Minim, chez Asa, Kadosh Baruch Hu Nes la Avraham, les peuples, ils voulaient toujours nier que Hachem ait fait quoi que ce soit de miraculeux pour Avraham. Quand ils ont vu que il y a eu un S pour le roi de Sodome, qui était là pour, parce qu'il avait besoin, on avait besoin de lui pour jouer un rôle avec, par rapport à Abraham. Mais eux, ils ont vu, il y a un S, le type, il tombe dans un trou dont il ne devrait pas ressortir et il sort. Donc, ils vont dire, celui qui a fait le S pour le roi de Sodome, il l'a fait un S pour Abraham, mais c'est pas Hachem. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il s'attaque à Abraham et pas à Sarah. L'important, c'est de dire que la raison du miracle, on peut dire, c'est Avimelech. Avimelech, c'était un roi qui avait des mérites, etc., et qui ont fait que la femme avec laquelle il a eu un rapport, Sarah, enfin, ils s'imaginent qu'il y a eu un rapport, elle est tombée enceinte avec ça. Mais grâce à Abimelech. Donc, pour qu'il n'y ait pas de. Que le miracle en question ici ne vienne pas fortifier la position d'Abraham. Il faut essayer de dégommer, de dire que ce n'est pas Abraham le père de l'enfant en question. Ça n'a rien à voir. Quand on dit qu'Abraham, au lit de Tzitzak, Rashi dit, Léachar Shekara, Kadosh Baruch Hu Shmo Abraham, Achar Kach au lit de Tzitzak. Que Abraham n'a mis au monde Yitzhak qu'après avoir changé de nom. Donc, on peut se demander qu'est-ce que ça apporte à Yitzhak d'être né d'un Abraham qui avait changé de nom. S'il était né avant, qu'est-ce que ça aurait changé? Alors en fait, pour répondre comme ça, à la fin de Parshat Lech Lecha, lorsqu'Abraham Avinu a reçu l'ordre de faire la Mila, Hachem lui a dit, Lo ikare od et Shimcha Avram, Vaya Shimcha Avraham. Comment Hachem lui a dit, ton nom ce sera plus Avram, mais Avraham. Pourquoi? Qui Avramon Goyim Netatifa. Parce que j'ai décidé que tu allais être le père d'une multitude de peuples. Et la Gemara dans Brachot, elle dit, au début, il était Avram, c'est-à-dire Av de Aram. Il était un père pour la contrée Aram. Maintenant, il est devenu Av le Chol Haolam, multitude de peuples, c'est-à-dire pour le monde entier. La question qu'on peut poser, c'est pourquoi est-ce que ce changement de nom est dit au moment de la Mila? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Mila? Donc il faut dire que, comme ça que dit le Breskirov, que, étant donné qu'avec la Mila, donc directement, étant donné qu'il change de nom, qu'il accède à un rôle plus important, parce que maintenant il va être considéré comme un patriarche pour l'humanité tout entière. Alors, il a changé de statut, son statut est plus élevé, et donc il convient à ce moment-là de faire la Mila. La Mila est vue ici comme une façon de compléter, d'achever la construction de la personne. Et cet achèvement, il est absolument nécessaire si on accède à un certain niveau. C'est ça la raison pour laquelle il fallait qu'il se naisse d'un père après qu'il ait changé de nom. Parce que du coup, cette élévation d'Abraham va entraîner l'élévation d'Israël, son fils. Mais au lieu d'être un prince d'un petit roi, il est le prince d'un grand roi. Donc, on nous rappelle le mariage d'Yitzhak avec Rivka. Et la Torah. Et puis ensuite, il y a un problème, c'est que cette fameuse Rivka, elle n'a pas d'enfant. Alors, le pasouk dit, « Vayetam Yitzhak l'Hachem » Le Nochar Ishto, en présence de sa femme, au sujet de sa femme, qui Akarahi, parce que elle est stérile, et Hachem Vayater lo Hachem, Hachem lui a répondu, il a répondu à sa prière, Vatahar Rivka Ishto, et Rivka, et elle est devenue enceinte. Le Targum Yonatan, il semble laisser entendre que Yitzhak n'a pas prié pour lui. Il a prié pour elle. Si, pourquoi il n'a pas prié pour lui? Que lui aussi, il a un enfant. Je veux dire, Alors, il y a une Gemara dans Baba Kama, qui dit que celui qui prie pour l'autre, alors qu'il a besoin de cette même chose, Hachem lui répond à lui sans qu'il ait prié pour lui avant même. Donc, il a été répondu pour lui puisque lui priait pour Rivka. Rachid dit qu'ils priaient tous les deux, chacun de son côté. Zé Omed Bezavidzou Bezou Omed Bezavidzou. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut bien nous faire? Où est-ce qu'il priait? D'accord. Pourquoi on doit nous préciser? Rachid précise, chacun était dans son coin. Alors vous savez probablement, il y a un Gemara au début de Brachot qui dit que Amar Rav Chelbo, Amar Rav Huna, Kol HaKoveh Makom L'Tfilato, Eloki Avraham Be'ozro. Tout celui qui fixe l'endroit où il prie, le Dieu d'Abraham l'aide, va l'aider. Et donc, ce qu'on vient nous dire ici, il sera qu'il avait un endroit où il priait régulièrement, et elle avait aussi un endroit où elle priait régulièrement. C'est-à-dire, ils appliquaient cette loi-là. En vérité, cette loi ici, qui est une loi importante, la question qui se pose, c'est est-ce que cette loi, elle s'applique seulement à la choule, s'applique seulement à la synagogue? C'est à la synagogue qu'on doit avoir un endroit fixe pour prier, ou est-ce que quand on prie à la maison, on doit aussi avoir un endroit fixe? Alors, c'est Machloket Rishonim. Rabbeinu Yona, il dit que ça s'applique aussi à la maison. Mais le Rosh, il dit que ça s'applique qu'à la synagogue. Peut-être seulement parce que la synagogue, c'est un lieu de prière. Donc, dans ce lieu de prière, il faut fixer son lieu de prière à soi. Bon, c'est ça la Machloket. Et a priori, les commentateurs, Magen Avraham, ils ont l'air de dire que c'est surtout à la synagogue. Et que la raison pour laquelle à la maison, il faut fixer un endroit aussi, simplement pour que les enfants ou les gens qui sont là ne le dérangent pas. Là, il prie, donc voilà. S'il est là-bas, c'est qu'il prie pour pas le déranger. Mais c'est pas l'application du Elokei Avraham Be'ozro. Il dit qu'en vérité, ici, c'est peut-être un peu spécial. Parce que la loi pour fixer un endroit pour prier, d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend d'Abraham Avinu. C'est marqué, Vayashkem Abraham Baboker, El Hamakom Asher Amad Sham. Évidemment qu'Abraham, il n'a pas prié dans une synagogue. Et donc, ça veut dire que, en tout cas, à l'époque des Avot, des patriarches, tout endroit était considéré comme la synagogue. Et donc, on peut dire que chez Yitzhak aussi, l'endroit où il priait, c'est comme une synagogue. C'est pour ça qu'il avait fixé un endroit. Ça permet pas de trancher entre Rabbeinu Yona et le Roche pour savoir si la loi s'applique à la maison aussi. Mais une chose qui est remarquable, c'est que dans le passouk, c'est marqué Vayater lo, la medvav. Ils prient tous les deux. Et Hachem répond à lui. Il répond à lui et pas à elle. Et on apprend de là, ce Rachid ramène, que Ein doma tfilat tzadik ben tzadik le tfilat tzadik ben rasha. La tfilat d'un tzadik fils de tzadik, elle est plus efficace que la tfilat d'un tzadik ben rasha. Alors, c'est un peu contre-intuitif, en fait. Parce que, disons, nous, avec notre mentalité, on aurait plutôt dit que celui qui a réussi à faire tout un travail pour prier, pour arriver à prier, etc., alors qu'il n'a jamais rien vu à la maison, il a plus de mérite que celui qui n'a fait que suivre l'exemple de ce père. Bon, alors, à ça, on peut répondre. C'est pas du tout une question de mérite, c'est une question d'efficacité. C'est-à-dire que quand tu pries à un endroit où d'autres ont déjà prié, etc., le chemin est déjà balisé. Donc c'est plus efficace. Sinon, il faut inventer le chemin. Prends une partie de ton énergie pour l'invention du chemin. Mais ce qui est remarquable ici, c'est qu'on peut en déduire de ce qui est dit là, que en vérité, Rivka était plus grande que Yitzhak. Plus exactement, qu'elle était au moins à la hauteur de Yitzhak. Pourquoi? Bon, disons qu'ils sont à la même hauteur. La seule différence qu'il y a, c'est que lui, il est Ben Tzadik et elle est Bat Rasha. Si on disait que Yitzhak est plus grand qu'elle, il n'y a aucune preuve que la tfila d'un Tzadik Ben Tzadik est supérieure à la tfila d'un Tzadik Ben Rasha. Pourquoi sa tfila a mieux marché? Parce qu'il est plus grand qu'elle. Donc, si tu veux en déduire la règle que la tfila de Tzadik, elle est plus efficace que la tfila de Tzadik Ben Racha, il faut qu'ils soient égaux. Parce que sinon, la raison pour laquelle la sienne est plus, celle du Tzadik Ben Tzadik est plus efficace, parce qu'il est plus tzadik que l'autre. Donc elle a fait un travail, elle qui vient d'une maison de Rechaïm, au moins pour arriver au même niveau que Yitzhak. Bien, c'est presque incompréhensible, si vous voulez, parce que il faut se souvenir que Yitzhak, c'est le bonhomme qui a vécu la Akedah. C'est le bonhomme qui était sur le Mizbéach, éventuellement il a une deuxième Neshama, etc. Et tout ça, toutes ces expériences qui ont grandi, qui ont fait grandir Yitzhak, ça, elle a... On avait bien vu que elle était au niveau de sa belle-mère, elle était au niveau de Sarah, mais elle était au niveau où Sarah était après 127 ans, alors qu'elle était, elle était une adolescente, hein, pas plus. Si vous regardez le texte, qui dit que verset 21, Vayetar Yitzhak l'Hachem lenochah. Vous voyez qu'il y a, si vous regardez bien les lettres, vous voyez qu'il y a une faute d'orthographe. Parce que Akara, c'est écrit avec un Vav. Et Vav Aleph. Si c'était Akara, ça devrait être Yud, c'est pas Vav. Donc c'est écrit qui Akara en vérité. Alors on sait qu'il faut lire I, mais c'est écrit où?
Je vais pas te tout de suite.
En vérité, c'est pas le Gaon qui dit ça. C'est le Meshech Chochma. Il dit que le fait qu'il écrit un rave ici, c'est un remez, c'est une façon allusive de dire que, voilà, elle, quand elle est partie de chez elle, Rivka, elle avait 3 ans. Et c'est écrit dans la Torah que quand Yitzhak l'a épousée, lui, il en avait 40. Quand ils ont eu des enfants, il sera qu'il avait 60 ans, donc c'est-à-dire c'est 20 ans après leur mariage. Elle, elle a 3 plus 20, elle a 23 ans. Elle a 23 ans quand elle a eu son premier enfant. Alors, sur ces 23 ans, si tu enlèves 11 ans, la Gemara dans Yevamot, elle dit que une femme, elle peut, enfin, une fille, elle peut pas avoir d'enfant jusqu'à 11 ans. Donc, dans ces 23 ans où elle a, pendant lesquels elle n'a pas eu d'enfant, il faut enlever 11. Et donc, en vérité, elle n'a été stérile que pendant combien de temps? Pendant 12 ans. Ben, où? La gématria de Hou, c'est 12. Et Vavalef, c'est 12. Ça veut dire que, de façon allusive ici, on nous dit, en disant Hou sur elle, c'est-à-dire que c'est comme si elle se comportait comme si elle était un garçon, comme si, si elle était Zahar, stérile. Fonctionnait pas comme une femme, disons sur le plan de la capacité d'avoir de l'enfant, parce que pour le reste, c'est parfaitement femme. Voilà, donc elle est enceinte. Alors, elle est enceinte et va être tout à Banim Bekirba. Il y a des ennuis, quoi. Parce que, en fait, ici on dit, parle de Banim, mais elle, elle ne sait pas. Elle pense qu'elle a un enfant et que cet enfant, il s'excite. Quand elle passe devant un Beth Amidrash, elle s'excite quand elle passe devant un temple idolâtre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée interroger Hachem. Rachid dit, comment elle est allée interroger Hachem? Alcha le Bet Midrasho shel Shem. Elle est allée dans le Bet Midrash de Shem, le Shem, le fils de Noach. Et donc, il faut comprendre pourquoi elle n'a pas interrogé Yitzhak, ni Abraham. Abraham était encore vivant aussi. Tu as dans la maison ton mari et ton beau-père, qui sont les plus grands que Shem lui-même. Et tu vas interroger Shem. Pourquoi elle est allée chez Shem? Non, certains veulent expliquer. En réalité, nous, on explique. On dit que, en fait, il y avait deux enfants. Et Esav, c'est Esav qui veut sortir quand on passe, quand elle passe devant un temple idolâtre. Et du coup, elle, en tout cas, ce qu'elle sent, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais en elle. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a du mauvais en elle qui s'excite lorsqu'on passe devant un temple idolâtre. Donc elle pense que voilà, il y a quelque chose en moi qui n'est pas bon. Bon, du coup, elle ne va pas interroger ni Abraham ni Israël, parce qu'elle ne veut pas leur faire du mal. Elle ne veut pas leur faire du mal de devoir penser que ils ont choisi une belle fille, une femme ou une belle fille qui a en elle suffisamment de mal pour que ça s'excite quand elle passe devant un temple idolâtre. Mais quand Shem lui a répondu, il lui a dit, Shnei goyim bevitner. On lit comme c'est écrit goyim. Il y a deux peuples en toi. Alors, on peut se demander, est-ce que Rivka a raconté à Yitzhak ce que Shem lui a dit? Ou non? Est-ce qu'elle est rentrée à la maison et elle a dit, j'ai interrogé Shem, et Shem m'a dit que je suis porteuse de deux enfants, et par conséquent, il y en a un qui tourne mal, quoi, et un qui tourne bien, quoi. Alors, certains veulent apporter une preuve qu'elle ne lui a rien dit. Elle ne lui a pas dit. Pourquoi elle ne lui a pas dit? Parce que, enfin, comment on sait qu'elle ne lui a pas dit? Vous savez qu'au moment où Yitzhak a donné les bénédictions, il voulait les donner à Esav. Et quand il l'a donné, il pensait que c'était Esav. Et il a dit, et dans la bracha qu'il a donnée, qui finalement est arrivée chez Yitzhak, chez Yaakov, mais qui était destinée à Esav, « Hevé gvir leachecha » Tu seras plus fort que ton frère. D'accord? Et si Yitzhak savait ce que Shem a dit à Rivka, il lui a dit Rav Yavod Tsaïr. Shem a dit le jeune, pardon, l'aîné va travailler pour le jeune. Alors, s'il pense que Esav est l'aîné, comment il peut dire tu seras plus fort que ton frère, alors qu'il y a une voix qui dit que ce qui se passera, c'est le contraire. Donc, ça veut dire que Rivka ne lui a pas dit. La raison pour laquelle elle ne lui a pas dit, on peut dire que ça correspond à une Gemara qui est un peu contraire à ce que, enfin, ce que je vous dis, c'est aussi une Gemara, mais il y a un Gemara dans Sanhedrin qui dit, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire, c'est Kol nevoua megalé akadosh baruchu nevoua zu le chol anvi. Y a une règle, dit la Gemara, que toutes les nevouot, quand Hachem donne une nevoua à un prophète, en vérité, il la dévoile à tous les autres prophètes aussi. Je vous ai dit qu'en général, ce n'est pas comme ça. Alors, il n'y a pas une vraie contradiction, c'est que quand quelqu'un ne connaît pas, il y a des gens qui reçoivent, qui, ce n'est pas vrai que c'est une règle générale que tout le monde connaît tout. Il y a des cas où Hachem veut que certains prophètes ne soit pas au courant. Comme il n'a pas voulu, il a voulu que Yitzhak, que Yaakov, qui était prophète, ne soit pas au courant que Yosef était vivant. Il a voulu que, malgré tout, son père, Yitzhak, soit oui au courant, mais que, bon, lui, il peut pas le dire. Il n'a pas le droit de le dire. Parce que, alors, pourquoi elle lui a pas dit? Parce que de deux choses l'une. Si Yitzhak mérite de le savoir, alors il le sait déjà. J'ai pas besoin de lui dire. Si on considère que ce que Shem lui a dit, c'est une prophétie. Shem était le prophète d'Hachem. Donc, pas besoin de lui dire. Ou alors, s'il y a une raison pour laquelle Hachem ne veut pas, alors c'est encore une raison supplémentaire pour pas le lui dire. Donc, il n'y a aucune raison de lui dire. Jusqu'à présent, hein, elle ne comprenait pas. Hein. Elle n'avait pas, pas à savoir si cet enfant, puisqu'elle pensait qu'elle en avait un seul, elle n'arrivait pas à savoir qu'est-ce qu'il est cet enfant. Il a l'air de bouger dans les deux situations. Soit est-ce qu'il est un sadique, s'il est un rachat. Pour ça, elle va donc interroger Hachem. Mais maintenant qu'elle a entendu qu'on en a deux, en quoi c'est apaisant? A priori, elle devrait être encore un peu plus inquiète. Puisqu'il va y avoir un, savoir qu'il y a un de ses enfants qui va vraiment tourner mal. Je dis comme ça. Au début, Rivka, elle pensait qu'elle a un seul fils. Quand elle a vu des mouvements contradictoires, elle est allée interroger. Elle pensait que c'était un instable. Un jour comme ci, un jour comme ça. Or, quand quelqu'un tire dans tous les sens, ça peut être extrêmement grave. Et quand il lui a dit qu'elle en avait deux, un qui est tzadik et un qui est rachat, et que ils se battent tous les deux entre eux. Alors c'est déjà l'ordre du monde. Le monde, c'est un monde de bataille entre le bien et le mal. C'est la situation normale du monde à la fin des temps, c'est qu'il y a une guerre entre le bien et le mal. Donc c'est beaucoup mieux de savoir ce qu'il en est, savoir qu'il y a du bien et du mal. D'accord? Mais bon, c'est limité. Il y en a un qui est, y en a un qui est bien, un qui est mal. Bon, ils vont se battre. Ils se battent déjà maintenant. Rashi dit, quand elle est allée interroger Hachem, c'est marqué Vayomer Hachem là. Hachem lui a répondu, lui a dit. Et Rashi dit Alidé Shliach. Alors par l'intermédiaire d'un envoyé, c'est-à-dire c'est Hachem qui lui a parlé. Ça veut dire que Rivka, à ce moment-là, elle n'avait pas atteint le niveau Ruach HaKodesh. Or, plus bas dans l'histoire des Brachot, on va dire qu'elle avait Ruach HaKodesh. On voit, elle a grandi. À ce moment-là, avant la naissance, elle n'a pas encore le niveau Ruach HaKodesh. Donc, elle est obligée de remplacer par quelqu'un. Et plus tard, quand elle va grandir, les enfants vont grandir, etc. Elle aura suffisamment évolué pour avoir atteint le niveau de Ruach HaKodesh. Alors, regardez le texte dans le verset Kav Gimel. Vayomer Hachem là. Hachem lui a dit, on a vu dans Rashi que c'est par l'intermédiaire de Shem, il lui a dit, Shnei Goyim Bevitner. Et vous voyez, en fait, on lit comme si c'était écrit Goyim, Gimel Vav Yud Mem, mais c'est écrit Gimel Yud Yud Mem. Donc, si on lit Gimel Yud Yud Mem comme c'est écrit, on lit Geyim. Lachon Geyim, ça veut dire Lachon orgueilleux des gens qui sont des grandes des personnes grandes, c'est-à-dire qui ont des gens qui ont des qualités importantes. Donc ça veut dire que la Torah est en train de dire de Esav, il est un grand bonhomme, puisqu'il est appelé comme son frère, ils font une paire de Géim. Il est lui aussi. On voit ici que la Torah, elle ne vient pas ici parler de façon méprisante l'égoïme. L'égoïme, ils peuvent aussi atteindre une grandeur. Le derrière de la Torah, ce n'est pas de mépriser l'égoïme. Contraire. Quelqu'un te dit, Yeshrochma Vavoïm, quelqu'un te dit, il y a la sagesse chez l'égoïme, tu peux le croire. Et ils ont des grands personnages. C'est pour ça qu'on nous dit, qui étaient ces. C'est qui les deux Géhim? C'est Rabbi et Antoninus. Il y avait un empereur romain ou qui était copain de, qui est ami de Rabbi. Ils avaient travaillé, discutaient souvent ensemble, etc. Donc la Torah, elle veut dire ici que celui qui est Ésav, il peut aussi être un Ésav du type Antoninus. C'est un goy, mais pas un ennemi. Un goy qui reconnaît, il veut pas du tout se convertir. Mais c'est un goy qui reconnaît l'importance d'Israël, qui reconnaît la vérité d'Israël. Parce que dans ce cas-là, alors quelle est la grandeur d'Israël par rapport à ces grands goyim? Personne, aucun goy ne peut arriver à ce niveau-là. Parce que c'est un niveau de proximité avec Hachem. Et c'est la différence. En sagesse, ils peuvent être aussi un sage, mais leur sagesse, c'est une sagesse humaine, c'est-à-dire produite par les humains. Ça peut être le summum de la sagesse. Notre sagesse à nous, elle est d'origine divine. Et ça, c'est inatteignable pour un goy. Antonin, c'est donc un empereur romain qui est considéré pour nous comme Chassidei Oumot HaOlam, le pieux parmi les goyim. On sait que en cachette, à la fin de sa vie, il s'est converti, un peu connu. Et les goyim aussi le reconnaissaient comme quelqu'un de très grand. Il est appelé Antonin le Pieux. Donc, il était un chassid. Eux aussi, ils le considèrent comme le pieux. Un chassid. Et il a écrit un livre de Moussa qui s'appelle Al-Atsmi, sur moi-même. J'ai pensé sur lui-même. Hazal disent que à cette époque-là, l'idolâtrie avait encore baissé d'intérêt, en fait. Tout le monde a reconnu que l'idolâtrie, c'était quelque chose de faux. Et Antonin, donc à la fin de sa vie, s'est converti et il venait étudier chez Rabbi régulièrement. Et alors, tout ça en cachette. Il ne pouvait pas s'y permettre. Alors, ça va très vite. Et la Torah, tout de suite, elle nous raconte fin de la grossesse, l'accouchement, la différence entre les deux enfants, etc. Et puis, on est tout de suite dans le verset. Dans le verset Kaftet, dans le verset 29, Passouk dit, Vayazed Yaakov Nazid, Vayavo Esav Mina Sadeh, Vuayev, Vayomer Esavel Yaakov Alitenina Mina Adom Adom Azeh, Yaayev Anokhi, Alken Karashmo Edom, et Yaakov lui a dit, Michach Hayomet Bechorat Chali, vends-moi aujourd'hui, tu veux des lentilles, là, je vais t'en donner, mais je te les vends. Et tu me vends ton statut de Bechor, ton droit d'aînesse. Et ça, lui a dit, écoute, moi, je vis dangereusement, je vais mourir. J'en ai rien à faire de la Bechorat, statut de premier-né. Donc, je pense qu'il a fait une bonne affaire, et ça. Je vends un truc qui n'a aucune valeur pour moi, et je vais à manger. Alors, il lui a vendu. C'est ce que nous dit le passé. Il y a une question. Comment on peut vendre un droit d'aînesse? L'aîné, c'est celui qui a passé le premier, qui a ouvert les voies basses. C'est sa mère. C'est le premier à avoir passé. Bon, il est né normalement, enfin, de façon classique, il n'est pas né par césarienne, etc. Et c'est ça qui fait de lui un bechor. Alors, ça ne peut pas se vendre. Qu'est-ce que tu vas vendre là? Alors, on voit dans le Rambam, dans Hilchot Melachim, au début, il parle de la malchoute qui est une yerusha, la royauté, ça s'hérite, soit de père en fils, etc. Et kol hakodem menachala, kodem lerushata amlucha. Celui qui est premier dans l'ordre de l'héritage, il est aussi premier dans le droit, dans l'ordre de succession de son père sur le trône. Donc, s'il y a plusieurs fils, celui qui est premier dans la liste des enfants, il est le premier pour l'héritage. Le cas échéant, il est Bechor. Il n'avait pas de fille avant lui. Et du coup, il est aussi le premier dans la liste des héritiers du trône. Alors, on voit dans Rambam, il y a après, Ve'aben Agadol Kodem Lakatan, Imenu, le grand-fils vient avant celui qui est plus petit que lui. On voit du Rambam que, en plus du din de Bechor qui existe dans la Yerusha, dans l'ensemble des dinim de Yerusha, c'est-à-dire d'héritage, il y a une règle qui dit que si le premier enfant est un garçon, il a un din de Bechor et il reçoit une double part dans l'héritage. Alors, à part ça, il y a aussi un dîme que le plus grand, il a priorité. Enfin, celui qui est plus grand, il a priorité par rapport à celui qui est plus petit. Même s'il n'est pas le Bechor, il n'a pas une double part, mais il a une priorité. Et ça, donc, encore une fois, ça existe même s'il n'est pas le Bechor. Il y avait, avant lui, il y a une sœur qui est née, donc il n'est pas le premier à avoir. À être né de façon classique. Et puisque c'est comme ça, alors on peut dire que c'est ça que Ésaü a vendu à Jacob. Le fait qu'il était plus grand. On ne peut pas vendre le fait d'être né le premier parce que ça, c'est une médecine ou c'est une réalité. Ou bien c'est toi qui a ouvert le chemin ou c'est pas toi. Mais par contre, être plus grand, donc ça te donne un droit de priorité. Tu peux vendre cette priorité-là. C'est ça que Esav a vendu à Yaakov. Et ça, on peut le vendre, même si on ne peut pas vendre la Bechora. Et là, du coup, on comprend bien, c'est marqué que Yitzhak, quand il appelle Esav pour lui donner le brachot, c'est marqué dans le pasouk, Vayikra et Esav beno Hagadol. Son fils le grand. C'est pas marqué, il a appelé Esav son fils le Behor. Le grand. C'est tout. Le grand, c'est à lui qu'il venait les bras forts parce qu'il était le plus grand. Malgré tout, il y a quand même une difficulté. C'est que quand Chazal nous dit que Yaakov, quand il a expliqué pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce que c'est la Bechora qu'il veut acheter, il lui a parlé de la Avoda. Et la Avoda, c'est pas le plus grand. La Avoda, c'est les Bechorot qui ont ce dîme. Et a priori, la Avoda, elle est liée au fait qu'il y a une certaine kedusha d'avoir été le premier à naître, à ouvrir les voies. Donc, du coup, c'est quoi là? Qu'est-ce que Yaakov a acheté? Qu'est-ce que Esav lui a vendu? Alors, le Boskov, il a expliqué avec un Midrash Rabbah. On parle de Midbar. Ah ben, le Midrash dit, Adam Arishon l'aya bechoro shel olam. Adam Arishon était le bechor, le premier-né du monde. Et c'est lui qui a apporté un korban. Et pour apporter le korban, il a mis des vêtements de Keunak Dola, de Kohen Gadol. C'était les vêtements, dit le Midrash, que les premiers-nés avaient l'habitude d'utiliser. Et quand Adam est mort, il a transmis ce vêtement à Seth, son fils survivant. C'est son troisième fils, mais comme Lacaïn et Abel sont morts tous les deux. Et Seth, pardon, il l'a transmis à Methuselah, qui est le fameux Mathusalem. Et lui, il l'a transmis à Noach. Et du coup, Noach a fait les corbanotes. Et Noach, quand il est mort, il l'a transmis à Shem. Et donc, Shem était Bechor. Non, pas du tout. Le Bechor des trois fils de Noach, c'était Yéfet. C'est pas Shem qui était le plus âgé. Pourquoi Yaakov, pourquoi Noach il a transmis à Shem? Il aurait dû le transmettre à Yéfet. Bon, pardon?
même quand on est petit, on peut dire, voilà, par contre. Et pour tout le chien, enfin, il a fait.
Oui, mais parce que c'est genre. On cite les nôtres d'abord, objectivement. Et c'est qui dans le passage qui est fait à Agadol? Agadol, c'est qui dans le passage? Pourquoi il a transmis à Hachem? Est-ce qu'il a vu quelque chose? Il a compris la chalchelette? Il a vu que ça devait passer dans la chaîne des Avot après. Et quand Shem est mort, il a transmis ce vêtement à Abraham. Abraham n'était pas Bechor. Pourquoi c'est à lui qu'il a été transmis? Parce qu'il était tzaddik. Alors on lui a donné la Bechorah. Abraham meurt, transmet à Yitzhak. Yitzhak à Yaakov. Yaakov n'était pas le porc non plus. La Shata Motse, chez Natla Yaakov, mais Esav. Tu vois que Yaakov l'a récupéré de Esav, Bechokhma avec ruse. Ce midrash-là, c'est la source pour dire que Hatshelo Ukama Mishkan, que tant qu'on n'avait pas érigé le Mishkan, le tabernacle, Aïta Avoda Arba Porot, Mi Adam. Comme c'est écrit dans le Ramban, comme on sait, que les Porot jusqu'au Vaudor, en réalité, c'était eux qui faisaient la Avoda, mais ils se sont disqualifiés parce qu'ils ont participé au Vaudor. Et quand quelqu'un a participé à de la Avodah Zarah, il peut plus fonctionner au Betamigdash, au Mishkan, etc. Donc, comme ils s'étaient disqualifiés, les Porot, il a fallu les remplacer. Ils ont été remplacés par les Levim. Adam Harishon, mais on peut bien sûr pas dire que Adam Harishon, c'est le premier qui est né par les voies normales. De même, Abraham, Shem, c'est pas eux les premiers-nés. Et néanmoins, ils ont fonctionné comme Bechorot. Ils ont fait la Avoda comme les Bechorot. Donc, on voit clairement que la Avoda de ce qu'on appelle les Bechorot, c'est pas dépendant du tout du fait d'être le premier à ouvrir les voies basses. C'est un digne de Ben Agadol. Celui qui est plus grand que les autres. Et la grandeur, ça ne se mesure pas obligatoirement en termes d'années. Donc on peut comprendre que Jacob ait acheté la Bechorah et Esav. En vérité, ce qu'il a acheté, ce n'est pas la Bechorah au sens habituel du terme, c'est le fait de faire la Avoda. Alors, il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish pour savoir si dans le désert il y avait une sanctification des Prorotes. Est-ce que les Prorotes qui sont nés dans le désert, les nés Israël étaient dans le désert, est-ce qu'ils ont eu un statut de Bechor? Rabbi Yochanan dit oui et Rish Lakish dit non. Alors, on vient de voir là-bas aussi que pour faire la Avoda, il faut la Kdusha de Bechor. C'est ce que disait Reish Lakish. Seuls les Prorotes qui étaient Prorotes en Égypte, quand on est sorti, seuls ceux-là ont pu faire la Avoda. Alors, du coup, c'est quoi la. Qu'est-ce qu'il a vendu et ça va à Yaakov de nouveau, si on tombe sur les pieds. Là-bas, il y a une autre Gemara dans Megillah qui dit que la Avoda qui incombait aux Porotes, le Pasouk dit, il lit Kol Bechor Hachem dit, chaque Bechor est à moi. Yomakoti kol Bechor Beretz Mitzrayim, depuis le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés égyptiens, donc en Égypte. J'ai sauvé les nés Israël, donc je les ai acquis en les sauvant. Et la Gemara, elle dit, mais c'est comme ça, alors avant la sortie d'Égypte, c'est-à-dire les Avot. Oui. Comment ça fonctionnait? La Gemara, elle dit, c'est marqué dans le passage, Vatika Rivka et Bigde Esav Bna Gadol, Hamoudot, Asher Ita Vabait. Quand Rivka a déguisé Yaakov pour aller chez son père, elle a pris un vêtement qui était le vêtement de Kohen Gadol que les savent, et savent, il laissa ça chez sa mère. C'est une bonne discussion, savoir pourquoi elle n'était pas chez ses femmes ou chez lui. Il n'avait pas confiance là-bas, pas à ce point-là. Donc, il a laissé ça chez sa mère. Et donc, sa mère, elle l'a pris, elle a habillé Yaakov avec ce vêtement-là, qui est le vêtement de Kohen Gadol, le vêtement de la Avoda. C'est marqué avec le vêtement Hamoudot. Hamoudot, c'est désirable, précieux, très, très désiré. Pourquoi? Parce que c'est les vêtements de Kohen Gadol, en fait. Et dans l'Yerushalmi, on dit très clairement qu'il y a une différence entre, au niveau de la Bchora, d'avant Yetziat Mitzrayim et celle d'après Yetziat Mitzrayim. Donc, puisque c'est à Yetziat Mitzrayim, à Makat Bechorot, que les choses se sont jouées, on comprend bien qu'il y a une différence entre avant l'histoire des Bechorot dans Mitzrayim et après. Par conséquent, après, c'est une histoire de Kedusha, de sainteté, mais avant, c'est une histoire de plus grand. Et donc maintenant, on comprend bien, hein, que les Bechorot qui ont été sanctifiés pour la Avoda, donc c'est ceux qui ont vraiment ouvert les voies basses. Et ça, c'était seulement après Yetziat Yisrael. Hachem les a acquis en les sauvant à Yetziat Yisrael. Mais Esav et Yaakov, c'est bien avant. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de Bechora qui était dépendante de la Kedusha acquise dans cette façon de naître. Le grand parmi les enfants. Et le grand voulait pas exactement dire le plus âgé. Hein. C'est le plus grand. Donc, c'est ça la grande différence entre avant et après. Avant, ça ne dépendait pas de la naissance. Et donc, Esav a vendu chez Bephora. Et non seulement il l'a vendu, mais le pasouk dit, va Ivez, Esav est un Prora. Quand il l'a vendu, il l'a méprisé. Il l'a vendu, j'en ai rien à battre, ça ne vaut rien. Veut dire que, en réalité, d'après la Torah, hein, le fait d'avoir vendu sa Bechora en soi, il n'y a pas de quoi en faire des grands reproches à Esav. Il avait quelque chose et lui, il pensait qu'il n'était pas disponible pour ça, il l'a vendu. Ce sur quoi on s'appuie pour faire des reproches à Esav, c'est le fait qu'il a été mais vaser la Prora, c'est-à-dire qu'il l'a méprisé. Bon, Yaakov, quand Yitzhak a appelé Esav, qui lui a dit qu'il allait lui donner une brachot, mais qu'il voulait qu'il aille lui chasser, bon, parce qu'il voulait mettre Esav sur son terrain. Le terrain d'Esav, c'était la chasse. Il voulait que Esav ait le sentiment d'avoir fait quelque chose pour mériter de recevoir la bénédiction de son père. C'est marqué, Rivka Shomat, Rivka a entendu lorsque Yitzhak a parlé à Esav. Alors le Targum Yonatan, il dit, Rivka Shomat, Beruach Kodesh. Rivka, elle a entendu Beruach HaKodesh. Elle n'a pas écouté aux portes. Enfin, peut-être qu'il n'y avait pas de porte pour écouter, mais. D'où est-ce qu'on sait que c'était Ruach HaKodesh? Targum, il dit comme ça, mais où il a pris ça? C'est parce que, au début du chapitre, c'est écrit, Vaikra et Esav, Beno Adgadol, Vayomer Elav, etc. Donc, vous entendez? Vaikra et Esav, Beno Adgadol, Vayomer. Alors, si tu regardes au début du Sefer Vayikra, c'est marqué Vayikra el Moshe, Vaydaber Hashem Elav. Là-bas, il y a un Torah de Kohanim, et qui dit, moi c'est marqué Vaydaber Elav, Vaydaber Hashem Elav, à Moshe. Mot Elav, on apprend le Maet, être coulable, ça veut dire qu'Hachem parlait à Moshe et pas aux autres. Personne d'autre n'entendait la voix d'Hachem quand Hachem parlait à Moshe. Y compris, dit la Gemara, le Torah de Kohanim, en fait, y compris les anges. Personne n'entendait, les anges non plus. Sauf Moshe. Donc ici aussi, comme c'est marqué Elav, Vayomer Elav, alors on a déduit aussi, ça voulait dire qu'il lui a parlé à lui tout seul, absolument tout seul. Personne d'autre n'a entendu. Comment est-ce que Rivka a pu entendre? Donc c'est pas, elle n'a pas entendu comme on entend normalement. Le roi Hagodesh, on lui a dit, on le lui a dit. Comme ça qu'on sait que c'était roi Hagodesh, parce que personne n'a entendu. Rivka, elle a dit à Yaakov, tu vas aller à la bergerie et tu prendras deux agneaux. Ça va que moi je vais cuisiner, etc. Et la question qu'on pose, c'est pourquoi elle a pas, pourquoi il faut que ce soit Yaakov qui aille le chercher? Elle pouvait aller, elle avait l'habitude probablement d'aller à la bergerie et de choisir les agneaux qu'elle voulait cuisiner. Pourquoi elle n'y va pas toute seule? Alors en fait, parce que Yitzhak, il a ordonné à Esav d'aller lui chasser. Ça veut dire que c'est Esav lui-même qui va aller chercher, qui va aller ramener les bêtes. Hein, Et quand Yaakov s'est présenté devant Yitzhak, il lui a dit, voilà, mange de Mitzili, de ce que j'ai préparé. Alors, ça veut dire que il est en train de dire, voilà, j'ai accompli l'ordre. Pour que ce soit pas un shaker, hein, sa mère lui a dit, tu vas aller prendre toi-même, que ce soit lui-même. Bon, parce qu'il n'y a pas de différence entre aller à une bergerie ou aller dans les champs les trouver. Il a fait la même chose que, enfin, aussi proche que possible de ce que Yitzhak a demandé. Alors, on pourrait dire, si on voulait être pinailleur, on pourrait dire Yitzhak, il avait dit à Yaakov de le, à Esav, de les chasser et de les lui préparer. Il était aussi le cuistot, c'est-à-dire il savait comment on prépare le fruit de la chasse. Or, c'est Rivka qui a préparé, c'est pas Yaakov. Alors, c'est vrai, mais ça, Yitzhak l'a pas demandé à pas demandé à Yaakov, tout à fait, il a demandé ça. Effectivement, Yaakov a apporté. L'un était un Korban Pessah. Et l'autre était un Korban Chagiga pour la fête. Mais pourquoi est-ce que, on peut comprendre pour ça, pourquoi est-ce que Yitzhak lui a dit Aseli Matamim? Pourquoi Yitzhak lui dit fais parler, c'est sûr que ça soit un délice. Matamim. Ça veut dire, alors, en fait, on comprend bien, parce que il y a une halakha qui dit que quand on mange les korbanot, ils devaient être, la viande des korbanot devait être préparée de sorte qu'elle soit super appétissante. Ça doit se manger avec de la moutarde, avec tout l'assaisonnement, etc. Ça fait partie de la façon. Quand on mange, quand tu manges les corbanotes, tu manges à la table du roi. Donc, la table du roi, tu ne vas pas manger comme ça, un truc pas assaisonné, etc. Avec tout l'assaisonnement possible. C'est ça qu'il a demandé, que ce soit matamim, qu'il soit délicieux. Est-ce que c'est Korban Pessah et Korban Chagiga? Bon, il y a évidemment une question, c'est que si on considère que Essav était un moumard, quelqu'un qui a tout rejeté, mais la shrita d'un moumard, elle n'est pas cachère. Donc c'est lui qui a fait la shrita de ce qu'il sera qu'à manger. Comment il a pu manger la shrita d'un moumard? Ça reste avec une question. Voilà, pour terminer, on reste avec une question. On ne partit pas en disant on a tout résolu. Voilà.
Merci, good job.